Aujourd'hui, je rencontre Frédéric et Alexis, donc qui vont nous parler de la monnaie locale, qui s'appelle le tissu.
Ouais, on peut parler de la monnaie locale du Nord-Isère, qui est monnaie voisine, et du projet sur la Drôme avec Frédéric.
Ouais. Ou est-ce que ça va être la même appellation? Vous reprenez la même?
Deux projets différents.
Ah, c'est deux projets différents. Ok. Bon, alors on va parler d'abord du tissu. Parce qu'il est déjà installé.
Ouais,
et...
Des monnaies locales en général.
Comme tu veux.
Pour mettre le focus sur.
Pas de souci, moi je vous suis.
Tourner comme ça. Et puis apporter du coup l'expérience sur les questions qu'on pourrait se poser sur les monnaies. Mais voilà, région Auvergne-Rhône-Alpes, on a 13 monnaies locales, une en projet dans la Drôme avec Frédéric et ses compagnons et compagnes. Enfin, c'est peut-être pas le bon terme, mais ses camarades, on va dire.
Ses camarades.
Voilà. Monnaie locale, il y en a 80 en France. Il y a une loi qui pose un peu le cadre de ça, la loi de 2014, loi Hamon. Et puis du coup, si on parle du tissu, on est dans le Nord-Isère. On a mis la monnaie en circulation le 10 février 2022, donc on a fêté nos 1 an. Après quelques années de montage du projet pour qu'elle puisse voir le jour.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'au bout d'un an, le bilan, c'est positif?
Alors, si c'est ma réponse personnelle, moi je suis assez perfectionniste, j'aime bien aller au plus loin possible. Donc, si on regarde le chemin parcouru, il est déjà super chouette, puisqu'on a eu 400 adhérents utilisateurs, 90 professionnels agréés sur la première année, et à peu près 27 000 tissus en circulation. Donc, c'est quand même plutôt un beau bilan pour une première année sur de la force bénévole, sans avoir de salariés qui puissent vraiment y passer beaucoup de temps sur le développement. Après, voilà, il y a l'enjeu maintenant de développer le réseau de pros pour développer le réseau d'utilisateurs et un peu. Réussir cet enjeu de développement de la monnaie sur le Nord-Isère.
Alors concrètement, ça se passe comment, la mise en place d'un tel projet, concrètement?
Ouais, il n'y a pas un chemin qui est le même, mais il y a des étapes similaires. Ça a été du coup d'avoir l'idée de faire une monnaie locale. Donc ça émerge dans les années 2016 sur le Nord-Isère, avec le film Demain notamment, où dans ce film ça parle de monnaie locale. Voilà, il y a un collectif de citoyens qui se dit ça serait trop bien qu'on fasse une monnaie locale, on se met ensemble. Du coup, le chemin parcouru a été d'écrire la charte de valeurs, les valeurs éthiques, morales, enfin qu'est-ce qu'on veut défendre avec cette monnaie locale. Et puis après, comment on va chercher du financement, quel billet on fait, les structures de la forme associative, enfin voilà, tout un tas de questions diverses et variées auxquelles il faut répondre et trouver des réponses.
Donc c'est quoi, une forme associative?
Nous, on a fait le choix, effectivement, comme la plupart des monnaies en France, d'être une association. On a eu une association qui a porté le projet de développement de la monnaie locale qui s'appelle le Tissou. C'était l'association Les Tisserands du Bien. Donc ça, c'est un clin d'œil sur l'histoire de notre territoire, sur le Nord-Isère, les métiers à tisser, tout ça. Donc voilà, il y avait un clin d'œil. Mais aussi la monnaie qui tisse les liens, parce que ça, c'est quelque chose de très important pour nous. On le retrouve dans les autres monnaies aussi, cette dimension de la monnaie comme un outil au service de la relation entre les êtres humains. Et dans la société. Et on a fait le choix de créer une association, le Tissou, pour porter la circulation et la mise en circulation du Tissou. Donc on a eu deux associations sur le parcours de ce projet de monnaie locale.
Donc, parce que bon, moi je ne connais pas du tout. Donc comment ça se passe? C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec la monnaie, la june, qui est une monnaie virtuelle.
On échange ces euros en monnaie locale. La loi dit c'est 1 pour 1. Donc par exemple, je vais changer 10 euros, donc je vais pouvoir avoir 10 unités de monnaie locale. Donc si on est dans la Drôme, pour l'instant elle n'a pas de nom, mais si on est sur le Nord-Isère, ça sera 10 tissous.
Ça reste quand même sur la base de l'euro.
Oui.
C'est ça, hein, ça a la même valeur.
Exactement ça, c'est la notion de monnaie complémentaire. Monnaie locale complémentaire indexée sur l'euro. Par contre, je ne vais pas pouvoir acheter tout et n'importe quoi, entre guillemets, avec cette monnaie locale. Ça va être dans un réseau de professionnels qui ont adhéré à la monnaie locale, qui ont été agréés, qui sont dans les sensibilités un peu de... sans se dire qu'ils sont au top de la transition ou autre, mais dans une démarche un peu sur les questions environnementales, sur le management de leurs ressources humaines, par exemple, ou avec leurs salariés, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils font pour essayer à leur échelle de changer les choses. Et puis, la somme de monnaie locale mis en circulation sur le territoire ne part pas dans la bulle de la spéculation financière ou autre. On dit à peu près 97-98% de la masse monétaire mondiale ne circule pas dans l'économie réelle. On est sûr qu'avec une monnaie locale, elle circule dans l'économie réelle et c'est un des enjeux de ces monnaies.
Donc si je comprends bien, en fait, les professionnels qui vont être choisis, ça, hein, il y a quand même un choix de professionnels, c'est dans une certaine éthique et qui correspondent à la charte des valeurs de base, c'est ça ?
Oui, c'est ça. La charte, exactement. Chaque monnaie a sa charte de valeur. On va retrouver des points communs et des différences aussi. Favoriser le commerce local, les circuits courts, ça peut être sur des questions environnementales ou autres. Donc il faut effectivement que le professionnel soit en accord avec cette charte de valeur et qu'il essaye de tendre vers ça. Voilà, sans...
Est-ce que c'est légal ?
Oui, il y a une loi qui est passée en 2014, effectivement, qui donne un cadre légal à l'existence des monnaies locales, complémentaires et citoyennes.
Alors Frédéric, vous, le projet, c'est ça ?
Le projet, alors, à la base, et la Drôme est tout de même un département qui est très engagé sur les problèmes de transition écologique, sociale et démocratique, puisque l'aspect démocratie est aussi important dans les monnaies locales. Donc, l'idée pour la Drôme, c'est de se dire il y a des tas d'initiatives. Dans quelle mesure, en créant une monnaie locale, on pourrait aider ces initiatives à être plus efficaces. On parlait tout à l'heure de s'assurer que la monnaie circule, à la différence d'être capitalisée, circule sur le territoire. Et donc, si on met à disposition de gens qui sont en circuit court une monnaie locale, en fait, ça va permettre à la monnaie de bien être sûre que là, non seulement les produits vont tourner en circuit court, mais l'argent qui va avec ces produits-là pour les échanger va aussi tourner en circuit court. Donc, c'est quelque chose qui permet à des initiatives existantes de fonctionner comme ça. La deuxième chose, c'est la charte ou un label. C'est un moyen qui a, pour un certain nombre de personnes, se reconnaissant dans certaines valeurs sociales et environnementales et démocratiques, de se reconnaître avec des professionnels, des particuliers, des collectivités territoriales, puisque les collectivités territoriales ont un rôle important aussi à jouer dans ce schéma-là. Et donc, c'est un écosystème, quelque part, de gens qui partagent des valeurs. Et la monnaie est comme l'huile dans le moteur. C'est ce qui aide le moteur à tourner de manière sans s'enrayer, sans se crisper, etc. Donc c'est un fluidifiant de ça. Donc voilà l'origine et l'idée qu'il y a derrière ça. Donc nous, on en est au tout début. La phase zéro, c'est créer un collectif. Donc là, on est dans la phase... En fait, ça a démarré avec les 10 ans de BioVallée. Il y avait un forum ouvert. Et il y a 3-4 personnes qui se sont réunies, qui ont dit hey, « si on avait une monnaie locale ?» Voilà, ça a démarré comme ça. Et là, on est dans la phase où on va commencer à essayer de créer un collectif étendu, puisque la charge de travail est importante. Et donc, il faut être un certain nombre. Et notre objectif, c'est de rassembler des gens, des citoyens, puisque c'est des monnaies citoyennes, des entreprises partenaires qui partagent les valeurs, des valeurs qu'il va falloir écrire après, et des collectivités territoriales et des associations.
Donc dis collectivité territoriale, c'est quoi ?
C'est des communes, c'est la mairie, c'est des intercommunautés, ça peut être le département, ça peut être la région, mais ça c'est un peu plus loin.
Alors juste, mais est-ce que là par exemple ça dépasse pas un tout petit peu le cadre éthique ?
C'est pas toutes les collectivités territoriales, c'est des collectivités territoriales qui sont dans une démarche de transition écologique et sociale, donc c'est pas forcément toutes les collectivités territoriales.
Donc, il reste quand même cette idée de charte, quand même.
Il y a la charte. Voilà. Et derrière, c'est pas parce qu'on travaille avec des collectivités territoriales que ce sont les collectivités territoriales qui créent la monnaie.
Alors, qui reste, le propriétaire, entre guillemets, de la monnaie ?
Eh bien, l'association, puisque d'après la loi de 2014, la monnaie est portée par une association ou une coopérative ou une SIC, donc ce genre de structure. Donc, la structure est d'initiative citoyenne. Et un élu est un citoyen, un entrepreneur est un citoyen, et donc l'idée c'est d'avoir des gens qui ont cette volonté partagée, c'est pour ça que c'est dans la constitution du collectif, c'est trouver des gens qui partagent un certain nombre d'idées et qui ont envie d'avancer ensemble.
Est-ce qu'on pourrait dire que ça se transforme un peu comme une banque ? Parce que finalement, il va falloir des billets ou, enfin, concrètement, s'il y a des billets.
Qu'est-ce que c'est une banque ? Quel est le rôle de la banque ? On pourrait peut-être répondre à cette question et après, on saurait si une monnaie locale se transforme comme une banque ou pas. Si la représentation de la banque, c'est l'endroit où j'ai mon distributeur de billets et je viens avec mon argent retirer des billets, bah, on peut trouver des fonctions analogues. Par contre, une monnaie locale ne va pas faire de prêt a priori, ne va pas être sur les marchés financiers. Enfin, il n'y a pas tout un tas de choses qu'une monnaie locale ne fait pas.
Vous faites du change.
Mais on fait du change d'euros en unité de monnaie locale complémentaire. Et en ça, effectivement, on peut avoir des billets. La plupart des monnaies locales ont des billets. Sur le tissu, on a 6 billets de 1 à 38 tissus, 38 clin d'œil au département de l'Isère. Et la possibilité d'avoir aussi une monnaie numérique. Mais banque, je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment comparer en tant que tel, hormis si c'est l'aspect logistique de pouvoir permettre l'accès à la monnaie locale.
Bon, alors donc concrètement, j'arrive avec mon billet de 10 euros et tu vas me donner un billet de 10 tissus. Et ce billet de 10 euros, il va où ?
Il repart dans les circuits financiers. Quelque part, sur ce qu'on appelait le fonds de garantie, qui est un compte où l'ensemble, ça s'appelle le nantissement en fait, l'ensemble de la masse monétaire en unité de monnaie locale qui circule doit être garanti sur un fonds de garantie. Nous, on a fait le choix au tissu d'aller à la NEF, qui est la banque la plus éthique sur le marché bancaire aujourd'hui. Et ça peut se discuter, en tout cas, voilà, nous c'est ce qui nous a semblé le plus proche, en tout cas, de nos valeurs sur ce qui existe sur l'offre des différentes banques en France. Et il y a un accord qui fait que la NEF s'engage à financer des projets de l'ESS sur le territoire de la monnaie locale en multipliant par deux. Si on a 30 000 tissus posés à la banque NEF, la NEF fait des prêts à hauteur de 60 000 euros sur notre territoire. Donc c'est une démultiplication de l'euro. Quelque part, il va servir trois fois, entre guillemets. Il y a l'unité de monnaie locale qui circule et 2 euros qui sont sous forme de prêt sur le territoire.
C'est-à-dire qu'à la différence de l'euro, où quand je donne 1 euro à une grande partie de 7 euros, partout dans le monde. En revanche, quand quelqu'un donne 1 euro au tissu ou à n'importe quelle monnaie, 7 euros est mis dans une banque éthique, quelle que soit cette banque-là, et l'euro qui est transformé, le tissu, va rester sur le territoire. Et quand la NEF, parce que c'est quelque chose d'important, dit, s'il y a 1 euro qui a été converti, je réinvestis en prêt 2 euros sur le territoire, c'est-à-dire que 7 euros, qui, quand il reste euro, partout dans le monde, avec la monnaie locale, 7 euros rapporte 3 euros au territoire. Et c'est pour ça que les collectivités peuvent être intéressées, parce que c'est un outil du développement économique durable, responsable du territoire.
Juste, je te coupe. Alors, en fait, ça veut dire, si j'ai bien compris, que c'est la NEF, en fait, qui prend cette décision de multiplier par deux pour, en fait, finalement, son but à la nef, c'est de promouvoir cette espèce de fonctionnement, ou c'est quoi, pourquoi ils ont fait ce choix finalement? Non, ça leur coûte de l'argent ou pas?
Là, on va rentrer dans des trucs un peu plus complexes, la création monétaire, comment elle marche. Enfin, si on fait simple, une banque peut prêter 6 à 7 fois plus que ce qu'elle détient en capitaux propres. Voilà, c'est à peu près, on va essayer de simplifier le truc. Là, c'est une convention qui a été passée avec le mouvement SOL et le mouvement MLCC, qui sont les représentations, les organisations qui représentent les monnaies à l'échelle nationale, du coup à l'échelle de la France. Et il y a une convention qui a été passée entre la NEF, mouvement SOL et le mouvement MLCC pour s'engager quelque part à soutenir le projet des monnaies locales avec ce on reprête x2 pour les monnaies qui s'engagent à poser leur fonds de garantie sur chez nous. Voilà, dans les grandes lignes. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Après, du coup, il y avait la question, comment ils font des prêts, c'est ça? Ouais, je pense qu'en termes de valeur, ça dépend des points de vue, je dirais, qu'est-ce que ça rapporte, chacun peut y voir son point de vue, mais en tout cas, moi, de ce que j'en vois de mon point de vue, c'est un soutien des monnaies locales, parce que si on regarde un peu les valeurs de la NEF, il y a des choses qui se rejoignent, et je pense qu'il y a des points de similarité en termes de ce qui veut être défendu, en termes de société. Voilà, si on regarde un peu la NEF, tu disais, c'est peut-être pas forcément la plus éthique, ou enfin, t'as envoyé un petit pic comme ça. En tout cas, la NEF va pas sur des énergies fossiles, la NEF va pas financer des armes. Il y a un certain nombre de choses que la NEF ne fait pas, et l'ensemble des prêts qu'elle fait sont disponibles sur son site internet. On sait l'argent, ce qu'elle en fait, et voilà, donc en tout cas il y a une transparence que toutes les banques n'ont pas forcément. Après, je libre à chacun d'aller vers les banques qu'il souhaite, mais aujourd'hui, en tout cas pour nous, le tissu, effectivement, c'était la NEF.
Pourquoi dans d'autres monnaies locales, c'est pas forcément la NEF, ça peut être une autre banque? Banque, en fait.
En fait, chaque monnaie locale décide avec quel partenaire bancaire elle souhaite travailler.
D'accord, donc ça veut dire que sur une banque plus classique, ça peut aussi fonctionner. Oui. Et il y a toujours cette histoire des deux... pas forcément. Voilà, là on parle d'un truc particulier.
Il n'y a aucune obligation de choisir telle ou telle banque. Enfin, il y a une liberté de choix sur la banque. Par contre, la convention de partenariat du x2, c'est bien avec la banque, la NEF, qu'il a été passé au niveau national pour les monnaies locales. Voilà.
Si on regarde quand même les banques généralement avec lesquelles travaillent les monnaies locales, c'est le crédit coopératif, c'est la NEF, c'est les crédits municipaux qui sont quelque part engagés dans une éthique sur... on n'est pas là pour faire de la spéculation, on est là au service des citoyens et d'un développement durable. Le crédit coopératif, lui, à ma connaissance, c'est pas 1-2 investi localement, c'est 1-1. Donc le crédit coopératif s'engage aussi sur ces choses-là. Et quand on est pourquoi la NEF ou le crédit coopératif font ce genre d'opération d'investir là, c'est que elles sont au courant, elles sont là pour faire du développement efficace. Et quand elles investissent sur un territoire où il y a une monnaie locale, elles savent que sur ce territoire, l'ESS, l'économie sociale et solidaire, a plus de chances de mieux marcher que là où il n'y a pas de monnaie locale. Parce que quand on compare l'euro aux monnaies locales, 1 euro de revenu sur un territoire génère entre 1,3 et 1,6 euros de richesse sur le territoire, parce que on va faire travailler des gens locaux, etc. Une monnaie locale, 1 euro converti en monnaie locale, c'est plus de 2 euros de richesse créée sur le territoire.
C'est ça. Et ces deux notions, qui sont super importantes. Voilà, la monnaie est un outil au service des échanges entre les êtres humains, soit de prestations de services, soit de biens. Et la richesse est créée parce que on a cet outil qui permet de faire les échanges entre les êtres humains. Mais il y a bien une production d'un bien ou la fourniture d'un service. Et c'est bien ça que la monnaie vient illustrer et permettre d'avoir des échanges. Voilà, si je produis des poireaux et que Frédéric produit des brouettes, on ne va pas pouvoir faire beaucoup d'échanges. Par contre, si on a un outil monnaie qui nous permet d'échanger, voilà, ça permet de mettre de l'huile dans les rouages sur cette dynamique-là. Et la richesse est bien créée parce qu'il y a ces échanges. Donc le billet qui circule, par exemple, s'il circule 6 fois, il a créé 6 fois la valeur de ce qu'il a circulé.
C'est ça, comme la monnaie est locale, et c'est une monnaie locale complémentaire, donc elle est locale, donc la richesse reste sur le territoire. Et donc ça permet de développer un territoire et de l'emploi pour les personnes qui sont sur ce territoire et des débouchés pour les gens qui travaillent sur ce territoire. Donc c'est un vrai cercle vertueux pour le territoire.
Et alors, est-ce que c'est difficile de convaincre les professionnels, par exemple, ceux qui ont des boutiques et qui vendent des choses, quoi, en fait, est-ce que pour adhérer à ça ?
Il peut y avoir plein d'objections. Qu'est-ce que ça va me rapporter ? C'est quoi le sens ? C'est quoi l'intérêt ? Après, si on prend le temps de s'y intéresser, d'avoir une curiosité, à nous aussi de savoir susciter la curiosité et l'intérêt pour se dire je vais prendre 5, 10, 15 minutes pour essayer de comprendre les principes, je pense qu'il y a plein d'éléments qui font sens, en tout cas avec cet outil monnaie locale.
Et avec un an de recul justement, donc il y a combien d'adhérents ? 400 ? Donc c'est autant de particuliers ou de commerçants, ou comment on arrive à dépatouiller le...
Nous, sur le tissu, c'est à peu près 400 adhésions de citoyens utilisateurs et 90 professionnels dans le réseau. Donc, on va dire 490 adhérents à la structure associative qui porte la monnaie. Ce que développait Frédéric sur les intérêts, sur ce que ça apporte, etc., etc., il faut que le réseau s'étoffe. Et donc, forcément, il y a des pros qui n'ont pas vu beaucoup de tissu parce que pas assez de citoyens ou pas assez de... Donc, voilà, tout l'enjeu, c'est de pouvoir élargir, développer... pour qu'il y ait un vrai dynamisme et une vraie vitalité.
Donc, en gros, il faut quand même que ça reste très très local, si j'ai bien compris. Ça veut dire que par exemple le tissu, il ne peut pas forcément être mis en place dans la Drôme. Ça serait plus compliqué, ou on peut imaginer comme ça une monnaie locale comme le tissu qui s'épand, enfin qui se répand comme ça aux limitrophes, et puis qui peut peut-être... Non, c'est pas forcément une bonne idée.
Alors, je n'irai pas positionner si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Je peux parler d'exemples de ce qui se fait. Effectivement, nous, on était le tissu, on est proche de Lyon où il y a la Gonette. On s'est posé la question à un moment donné, est-ce qu'on veut rejoindre la Gonette et tenter de... Et nous, sur notre chemin, la Gonette, la monnaie de Lyon. Ouais, la Gonette. Et on a le Cairn à Grenoble. Du coup, on est entouré par le Cairn, la Gonette, l'élève à Chambéry. Du coup, on a plein de monnaies autour. Mais nous, ce qui faisait sens, c'était vraiment sur notre territoire qu'on ait notre monnaie locale. Mais exemple à contrario, la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, ils ont une monnaie qui s'appelle la roue. Et après, ils ont plein d'antennes partout dans leur territoire. Donc, on peut très bien avoir une même monnaie, mais avec cette notion quand même de territoire local tel que c'est défini sur les réalités aussi du territoire, sur les réalités économiques. Rien n'empêche par contre de réfléchir interopérabilité entre monnaies, c'est-à-dire est-ce que avec des tissus, si je vais à Lyon, je peux dépenser mes tissus et vice versa. Donc ça, c'est des sujets qui sont en réflexion et rien n'interdit ça. Par contre, nous,
s'il n'y a pas de professionnels qui l'utilisent. Ça n'a pas de sens.
Il y aurait le réseau pro de la monnaie en place sur le... C'est-à-dire permettre l'interopérabilité, permettre entre les deux monnaies. Par exemple, on fait une convention, je peux utiliser le tissu sur le territoire de la Gonette et la Gonette peut utiliser. Donc ça, c'est des choses qui sont en réflexion et qui ne sont pas...
Ça ne se fait pas pour l'instant.
Il y a deux monnaies, je ne les ai plus en tête, qui ont mené cette expérimentation il y a quelques années, où si ça se fait. Et même, les monnaies locales, on peut avoir la monnaie locale en version numérique. Et dans le développement des outils, l'interopérabilité est prévue et peut se faire si on tombe d'accord pour quelque chose dans cette direction-là. Donc le champ des possibles, pour moi, est ouvert. Maintenant, il faut que ça soit cohérent avec... tel que ville-territoire. Voilà, c'est ce que je...
Mais en fait, cette monnaie, elle n'est pas faite pour remplacer l'euro, on est bien d'accord, hein. C'est ça, hein.
Exactement. On parle bien de monnaie locale complémentaire. On n'a pas l'ambition de remplacer l'euro, loin de là, mais comment l'outil monnaie locale complémentaire vient répondre à des besoins ou à des choses que l'euro ne peut remplir.
Donc ça veut dire que s'il y a un problème avec l'euro, le tissu, il est forcément touché aussi.
Alors, la masse monétaire, enfin s'il y a un problème avec l'euro, admettons l'euro il dégringole, il n'y a plus d'euro. Ouais. Il y aura la masse monétaire de monnaie locale qui pourra toujours circuler puisqu'elle existera et elle n'aura pas été détruite.
Mais ça peut être une sécurité aussi alors du coup, non?
On peut le voir comme ça, pourquoi pas, hein, ouais. Se dire ça peut être un outil de résilience face à un effondrement économique.
Par exemple.
En fait, il y a des pays en Amérique latine qui ont réussi à traverser des crises parce qu'ils avaient cet outil monnaie locale. Donc, on peut... l'euro, ça marche parce qu'on a confiance. Enfin, la monnaie marche parce qu'on a la confiance. Si on n'a plus confiance, ouais, ça ne vaut plus rien. C'est une histoire de confiance, quand même, la monnaie.
Au niveau, oui.
En Allemagne, dans les années 33, je me souviens plus du nom du village, il y a l'une des premières monnaies locales qui se crée. Le maire, un jour, décide, donc c'était après la crise 29, l'effondrement du Deutsche Mark, du Mark, et donc c'est une catastrophe. Et donc ce maire décide d'imprimer des billets et de créer de l'argent pour le village. Et il lance avec cet argent, il paye des gens qui étaient au chômage, qui n'avaient plus de travail, pour faire des travaux d'intérêt général sur le territoire. Et donc, il paye les salariés comme ça.
Avec des billets de Monopoly.
Mais en quoi l'euro ne serait pas du faux argent si on n'avait pas confiance? Parce que ça marche parce qu'on a confiance.
Derrière.
Enfin, je reviens sur cette notion-là, mais si demain tout le monde dit l'euro, on n'a pas confiance, du coup, c'est un bout de papier, certes sécurisé, mais.
On n'a pas le choix, surtout.
En tout cas, c'est le système qui est en place. Oui, mais si on prend un peu du recul, ça marche parce qu'on est OK d'utiliser cet outil. Si tout le monde dit on n'a plus confiance et ça ne vaut plus rien,
bien, d'ailleurs.
Voilà. Je ne sais pas après, mais en tout cas, on peut se poser la question.
Depuis la fin de la convertibilité du dollar en or, toutes les monnaies mondiales ne sont que des monnaies papier. C'est-à-dire que c'est juste, et c'est pour ça que faut garder la crédibilité de la monnaie, etc., par les politiques qu'on met en place, parce que les monnaies n'ont plus aucune contrepartie réelle dans le monde. C'est que du virtuel.
Je pourrais très bien dire je prends des fèves de haricots et c'est la monnaie. Et si tout le monde est d'accord, il y a une dynamique et il y a un truc qui se passe.
Elle est basée sur l'euro.
Là, j'étais plus sur un exemple hors sol pour dire si on prend des fèves de haricots et qu'on est tout le village est d'accord pour échanger avec des fèves de haricots,
ça ressemblerait plutôt au sel. Ce qu'on avait au sel, c'était le troc.
Ou c'est l'unité de temps qui est l'unité de valeur.
Mais c'est sûr, une monnaie locale contribue à la résilience d'un territoire. C'est-à-dire que si les gens qui ont confiance dans cette monnaie, elle circule indépendamment de ce qui se passe en dehors du territoire. Et on oublie à la fin, sauf pour calculer le prix de vente et d'achat, on oublie qu'il y a des euros derrière. On échange des tissus, on échange... Donc il y a un vrai... pour moi, le territoire, et c'est ce qu'il y a de bien dans le local, le territoire est important. Après, la question du territoire, est-ce qu'il faut être grand ou petit? C'est une question difficile parce que pour que la monnaie reste sur le territoire, il faut que les gens qui acceptent cette monnaie pour payer puissent la dépenser chez d'autres gens qui peuvent. Donc, si le territoire est trop petit, et que les gens qui opèrent sur ce territoire vont ailleurs, eh ben, la monnaie ne servira pas à grand-chose. Donc il faut avoir un territoire qui soit suffisamment grand pour que la monnaie reste sur le territoire et suffisamment petit pour que ça fasse sens d'un point de vue territoire. Et donc dans la Drôme, nous, on a cette. Ça a commencé sur la vallée de la Drôme, hein, puisque ça, c'est né suite au forum de Biovallée. Et la question qu'on s'est posée au départ, c'est est-ce qu'on fait une monnaie pour la vallée de la Drôme ? La vallée de la Drôme, c'est 60 000 habitants, hein, entre Livron et le Haut-Diois. 60 000 habitants, c'est pas beaucoup. Maintenant, le problème de la Drôme, c'est que quel est le lien d'un point de vue territoire entre les gens qui vivent dans le Nord Drôme et les gens qui sont dans Drôme Provençal ? C'est qu'est-ce que c'est faire territoire, quelque part ? Si on dit, qu'est-ce qui fait que des gens ont un sentiment d'appartenance ? C'est un vaste sujet, mais ouais. C'est un sujet
qui se pose sur la monnaie locale.
Qui se pose sur la monnaie, puisque l'une des monnaies locales qui marche le mieux, c'est la monnaie locale du Pays Basque. Parce que le Pays Basque a une identité forte, et que dans la charte de valeur de cette monnaie-là, c'est la défense de la langue basque, entre autres. Et donc y a un sentiment d'appartenance qui est lié à ça. Alors on n'a pas besoin d'être le Pays Basque pour avoir un sentiment de territoire, mais c'est tout de même des questions qui se posent. Et nous, la conclusion où on en est aujourd'hui, hein, c'est juste des travaux préliminaires, des réflexions préliminaires, c'est qu'on pense qu'il faut être polycentrique. C'est-à-dire que pour développer un réseau dense de particuliers et de commerçants, artisans, prestations de services, etc., il faut avoir des gens qui sont locaux et qui animent localement ce réseau. Et la polycentricité, c'est de dire, eh ben, je peux avoir des gens, des bénévoles, qui s'intéressent à ce sujet-là sur la vallée de la Drôme, parce qu'il y a des gens qui vont s'animer à la vallée de la Drôme. Et puis, je vais avoir un autre collectif de citoyens à Valence-Romans qui se disent, ben, nous aussi, on veut faire ça. Et puis, on va articuler ça et on va se dire, ben, on va pas créer une monnaie pour la vallée de la Drôme et une monnaie pour Valence-Romans. On va prendre la même. Et on va connecter les deux. Donc c'est parce que des tas de gens qui habitent Cré, eh ben, ils font des dépenses à Valence. Donc c'est quelque part idiot de se priver d'une ville comme Valence. Mais Valence, c'est tout de même à 30 km de la vallée de la Drôme. Et donc, si c'est des gens de la vallée de la Drôme qui veulent lancer la monnaie à Valence, les chances de succès sont très limitées.
Bah, je vois pas très bien là. Je trouve que ça se contredit. Enfin, je sais pas où, j'ai pas tout bien compris, mais enfin, ce qui est un peu gênant, c'est cette histoire d'appartenance quand même. Enfin, je veux dire, c'est bien aussi de, enfin, je sais pas, d'ouvrir un peu, non ? C'est un peu fermé dans ce que tu dis en fait. Je dis pas que vous êtes fermé, mais je dis que vous avez, enfin, je sens une petite peur. De se dire, là, on voudrait faire ça Biovallée, et puis voir un peu après comment ça se passe, que je peux entendre, hein, c'est pas un jugement. Hein. Mais pourquoi.
Non, c'est pas dire on veut faire ça Biovallée, puisqu'on est déjà en discussion avec des gens de la Drôme Provençale. La question, c'est de se dire, il faut que localement, il y ait des gens qui physiquement vont le faire. Si j'ai pas de relais. De bénévoles.
Ah oui, là Valence. tu parles de
qui fait vivre sur les différents territoires du même département, voilà. Si on prend l'exemple de la Drôme, d'avoir des collectifs de citoyens qui arrivent à faire vivre et animer une fois que la monnaie est là, pour pas qu'elle dépérisse. Après, on peut y voir effectivement quelque chose d'une Allez, on va prendre le terme identité, mais pour moi c'est pas négatif, parce que si on est clair avec son identité, du coup on est beaucoup plus ouvert à ce qui est différent de soi. Enfin, ça c'est ma vision sur cette question là mais du coup qu'est-ce qui fait sens à l'appartenance aussi d'un territoire avec son histoire et sa culture, tout ça. Et effectivement la monnaie peut être un clin d'œil à ça, sans que ça soit un truc qui doit enfermer, mais voilà, les billets par exemple peuvent parler de l'histoire d'un territoire. Nous, c'est ce qu'on a fait avec le Tissou, ça raconte l'histoire de notre territoire, donc ça peut donner un sentiment d'appartenance. Après, c'est pas le seul levier. Je pensais quand ce que tu développais, il y a aussi la question de l'utilité sociale, etc. Enfin, c'est un outil, on peut aussi expérimenter des choses sur les questions de transition, résilience, utilité sociale. Enfin, voilà, il y a plein de choses possibles en fonction des personnes qui font vivre les monnaies et des envies. Et c'est là où c'est pluriel aussi.
Et dans l'identité du territoire, le fait d'être ouvert peut faire partie de l'identité, ou à l'inverse, le fait d'être renfermé sur soi peut faire.
Et si, ça peut faire peur aussi, quelque chose de trop fermé.
Si on prend la vallée de la Drôme, l'une de ses caractéristiques historiques, c'est que c'est un lieu de passage et d'ouverture et de mixité. Et donc moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui est. Qui fait partie de l'identité de cette vallée, hein, et un peu au-delà, parce que Dieu le fit a été très ouvert. Donc ce coin-là a cette culture d'ouverture, et je pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité, et même je pense que ça va de pair. C'est pas pour se renfermer sur soi, c'est pour que c'est au service du développement de ce territoire et de ses valeurs. Et quand les valeurs, c'est l'ouverture, ça va avec. Faut pas en avoir une lecture, nationaliste ou territorialiste, revendicatrice d'exclure les autres. C'est pas.
C'est bien de le préciser.
C'est quoi les ingrédients qui permettent d'être dans l'ouverture? C'est peut-être aussi une question qu'on peut se poser si on va un peu plus sur de la philosophie et de la socio. C'est quoi les ingrédients qui permettent d'être ouvert? Je disais tout à l'heure, si on est au clair avec notre identité, on ne peut être couvert à la différence. C'est souvent la peur de ce qui est différent de moi, de ce que je ne connais pas, qui fait qu'on a tendance à se replier ou à se refermer. Et au contraire, si on est plutôt au clair avec tout ça, moi je pense que ça invite à ouvrir.
Et je reprends l'exemple du Pays Basque. Ils utilisent maintenant leur monnaie pour les touristes qui viennent visiter le Pays Basque soient associés au développement du territoire. Aujourd'hui, assez souvent, le tourisme est perçu comme un consommateur du territoire. Ce qu'a créé la monnaie Lechko au Pays Basque, c'est le tourisme participatif, les touristes.
C'est-à-dire qu'ils ont cette monnaie, finalement.
Voilà.
Ils peuvent en tout cas l'avoir.
Ils peuvent l'avoir. Ils achètent une box, comme les box voyage, etc., dans lequel il y a de la monnaie, il y a des parcours de découverte du territoire, et via ces parcours, on va à la rencontre du territoire, et on va contribuer au développement et à la protection du territoire.
Et donc, c'est pas mal, en plus, parce que ça peut être vraiment porteur, même pour les professionnels, du coup, d'avoir envie de participer à ça, parce que c'est un projet intéressant.
Nous, là, ce qu'on est en train d'initier, c'est d'identifier ce genre de projet sur lesquels on utilise la monnaie et qui serait fédérateur entre différents acteurs du territoire, que ce soit des citoyens, des éco-hébergeurs, des agriculteurs qui ont des fermes ouvertes, ils vendent à la ferme, que ce soit tout ça. Et de trouver des petits écosystèmes dans lesquels on utilise la monnaie pour que ce petit écosystème fonctionne. Et là, on a des gens qui sont intéressés. Et il faut en trouver plusieurs. Donc nous, on est à la recherche de différents écosystèmes. Donc par exemple, on s'intéresse au sujet de la sécurité sociale alimentaire. En se disant, eh ben, il y a plusieurs endroits dans la Drôme, à Dieulefit notamment, mais il y a d'autres endroits où il y a des réflexions sur ce genre de choses. En quoi une monnaie locale peut contribuer aux objectifs de la sécurité sociale et alimentaire. Et donc aujourd'hui, à Dieulefit par exemple, il y a des gens qui, alors qu'ils devraient payer 100, payent 70. Mais aujourd'hui, les 30 euros qu'ils économisent, ils peuvent les utiliser pour aller acheter chez Amazon un produit venant de Chine. Je caricature, mais si ces 30 euros, je les redistribue en 30 monnaies locales, on a rendu de la richesse à ces gens-là, mais on garantit en même temps que cette richesse va être réutilisée sur le territoire. Et donc, on évite les fuites. Voilà, c'est le genre et donc, dans notre création de collectif, on est à la recherche de gens qui ont des initiatives qui contribuent au bien-être des gens sur le territoire, dans lesquels on se dit, est-ce que la monnaie locale pourrait être une aide pour eux ? Et d'essayer de créer le collectif en regroupant des gens qui ont des besoins par rapport à cette monnaie.
En fait, oui, c'est ça, c'est d'avoir un maximum, en fait, en tout cas, des gens qui soient intéressés par ce projet, un peu ouverts sur toute la Drôme, au maximum, pour élargir le territoire, c'est ça. Et de pouvoir s'investir dans l'association, en fait,
pour la créer
déjà. Parce que là, vous en êtes au stade où c'est juste l'idée,
voilà,
quoi.
C'est la création du collectif de citoyens.
D'accord, vous allez faire une forme associative ou pas ?
On va très certainement être en forme associative, c'est la plus simple. Intellectuellement, j'ai une sympathie pour les SCIC, les SIC, qui sont les sociétés coopératives d'intérêt collectif. C'est-à-dire que c'est plusieurs types de catégories de participants qui se rassemblent, et il y a des collèges, hein, il y a un collège des citoyens, il y a un collège des professionnels, il y a un collège des associations, un collège...
C'est ce qu'on appelle un peu la gouvernance partagée.
Voilà, parce que si on veut construire ensemble, c'est... Voilà, mais l'association, c'est tout même s'il y a de plus simple, donc c'est pas mal,
oui,
de garder des choses
évoluer.
Simples, ça peut évoluer.
Bon, alors on arrive sur la fin. Donc, je vous laisse la parole à tous les deux de savoir qu'est-ce que vous avez envie de dire pour clôturer un peu ce sujet. Je pense qu'il y a des choses que vous n'avez pas évoquées. Que vous avez...
Je pense que c'est une opportunité pour tout le monde, une monnaie locale. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées par un développement durable et socialement équitable de leur territoire. Et c'est un outil extraordinaire. C'est un outil réseau. C'est-à-dire que l'utilité d'une monnaie dépend de la taille du réseau. Donc, ce qui est un risque pour les monnaies, c'est que les gens attendent que ça marche avant de rentrer en se disant eh ben, oui, je ne vais pas avoir beaucoup de clients parce qu'il n'y a que 400 adhérents, je ne vais pas avoir beaucoup. Donc, pourquoi j'irai ? Eh bien, si tout le monde se dit ça, ça ne marche pas. Si tout le monde se dit « c'est super, j'y vais », eh bien, ça marchera. Parce que c'est la taille qui augmente l'utilité, et plus l'utilité est importante, plus la taille augmente. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est « croyez-y et allez-y, parce que c'est comme ça que ça marchera. C'est pas en attendant qu'on fera marcher la chose. »
J'espère qu'on arrive avec ces monnaies locales à susciter la curiosité, l'intérêt. Se dire, même si à la fin de cette émission de radio j'ai pas compris, bah, je vais quand même aller voir et m'y intéresser. Et puis de me dire, bah voilà, en fait, Moi, vraiment, personnellement, ce qui me met en route intérieurement, c'est chouette, un outil accessible, quelque chose de concret pour tenter à mon échelle d'agir dans cette société, vers une société qui me paraisse plus proche de mes valeurs. Voilà. Et du coup, la dimension de pouvoir d'agir, de pouvoir retrouver un pouvoir d'agir, ça permet de calmer beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude. Voilà, on se sent mieux et ça permet de se sentir bien et c'est cool. Du coup.
Juste, vous êtes combien l'association pour le Tissou à la base ?
Nous, au Tissou, ça a été un collectif du coup entre 2017 et 2022, entre 15 et 20 membres actifs. Aujourd'hui, ça repose sur entre 10 et 15 membres actifs et une trentaine de petits soutiens qui vont donner des coups de main ponctuels sur des événements.
Donc on peut dire qu'il faut être une quinzaine, entre 15 et 20 personnes pour que ça arrive à peu près.
C'est ça, il y a de la réalité de gestion, d'opérationnalité dans le projet et ça va dépendre de la taille du territoire, ça va dépendre du nombre de pros, des ambitions, des objectifs aussi qu'on se donne. Mais de pouvoir avoir un noyau entre 10 et 20 membres plutôt actifs, ça permet d'asseoir quand même une plutôt bonne dynamique et puis éviter aussi le burn-out bénévole qui peut aussi exister. Ces gens très engagés qui font beaucoup de choses. Non, mais faut être prudent aussi par rapport à ça.
Des soucis à ce niveau-là ?
Nous, non, mais c'est quelque chose qui peut s'observer parce que ça manque de monde, mais on veut quand même que les choses soient faites, etc. Donc du coup, on donne, mais il faut aussi savoir prendre soin de soi. Et ça serait le con pour une monnaie locale de ne pas être dans cette vigilance-là.
Dans la maltraitance de ces bénévoles.
Mais bon, il faut quand même dire que ça prend quand même un peu de temps. Quoi.
Ça prend du temps, il y a des choses très concrètes à faire. Donc voilà, après, il y a plein de possibilités.
Juste, je te coupe, ça coûte de l'argent à l'organisation de tout ça, parce qu'il faut imprimer des billets, tout ça, non ?
Bien sûr, le financement, elles sont multiples, ça peut être les adhésions, ça peut être des fondations qui vont soutenir. Nous, sur le Tissou, on a eu la Fondation de France qui nous a soutenus à hauteur de 20 000 euros pour lancer le Tissou. Donc voilà, c'est quelles sont les sources de financement, à quelle porte on peut taper, avec quel projet et à qu'est-ce qu'on répond. Et puis voilà, les adhésions, ça peut être les collectivités si elles soutiennent ou pas, ça va dépendre des territoires. Et voilà, donc plusieurs sources de financement. Mais oui, ça, il faut. Effectivement, il y a besoin d'un budget minimal, au moins pour pouvoir imprimer les billets chez un professionnel. Si on prend un graphiste, de payer le graphiste. Puis il y a les assurances, enfin, il y a des coûts basiques qu'il faut assurer.
Un local ? Non, pas forcément. Vous avez un local ?
Local. Nous, au Tissou, non, mais il y a des monnaies, ouais, effectivement, qui ont des locaux, leurs bureaux et leurs locaux. Ouais. Effectivement.
Il y en a même pour les salariés.
Oui.
Ah oui ?
Quand ça marche. Bien, et quand il y a des aides des collectivités territoriales aussi.
C'est des subventions du coup.
Voilà. C'est des subventions et. Mais non, c'est. Ça coûte de l'énergie et un peu d'argent.
C'est ça. Après, ça peut donner. Je crois que ça peut faire peur aussi de se dire, tiens, genre dans un projet de monnaie locale, ça donne l'impression qu'il y a l'Everest à grimper sur la charge de travail ou autre. Mais il y a vraiment la possibilité, en fonction des appétences, des différentes appétences, de aussi trouver sa place et de créer les places pour que chacun s'y retrouve à la hauteur de son désir d'engagement.
Et il y a du travail, mais c'est passionnant parce que le nombre de choses qu'on découvre. Que ça soit sur c'est quoi une monnaie, c'est le nombre de. Les réseaux qu'on développe, parce qu'on rencontre des tas de gens, d'autres citoyens, etc. Donc, culturellement, c'est enrichissant. Je pense que ça enrichit le territoire, mais ça enrichit aussi les personnes qui participent. Et puis, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est la démocratie. La majorité de ces associations fonctionne sur des principes de prise de décision par consentement. Et la décision par consentement, c'est qu'il faut que tous les participants consentent à la décision. Et c'est-à-dire que on a des processus de prise de décision qui sont des vraies démarches démocratiques où les gens font preuve de bienveillance, d'écoute, de respect, qui sont les fondements de toute démocratie. Et c'est important aussi qu'il y ait des espaces où on puisse expérimenter ce genre de choses, parce que à l'ère des réseaux sociaux, on est plutôt dans des discussions du café du commerce où je te dis quelque chose, je te dis le contraire et j'essaye de te convaincre que...
Et... Donc là, on est bien d'accord que tout le monde doit être d'accord.
Non.
Non.
Surtout pas. Surtout pas, mais en tout cas, il y a des... le consentement, enfin il y a deux consentement, consensus, déjà c'est pas les mêmes processus. Il y en a un, c'est il y a aucune objection à la proposition telle qu'elle est formulée et on va essayer de faire bouger la proposition pour lever les objections qui pourraient être formulées. L'autre, c'est tout le monde est ok avec la décision. Donc du coup on voit que c'est pas, déjà c'est pas les mêmes dynamiques qui se jouent j'aime bien cette idée de laboratoire d'expérimentation aussi dans ces projets là. À un moment donné au Tissou, à l'époque des Tisserands du Lien, on arrivait presque à dire on s'en fiche quelque part si on sort pas la monnaie, mais l'expérience qu'on est en train de vivre là ensemble, elle vaut autant, ce chemin qu'on est en train de parcourir vaut autant que le résultat qu'on va atteindre. Et en ça, bah, c'est aussi assez stimulant et intéressant de pouvoir faire différemment que ce qui se pratique dans notre société et là où on peut avoir plein de doléances. Et puis l'idée de au tout début, Calou, tu disais convaincre, comment convaincre machin. Je crois qu'il s'agit pas de convaincre, mais plutôt de partager une vision et puis de comment faire sens, comment le sens que je vois, j'arrive à le partager à l'autre. Du coup, il y a quelque part une violence à vouloir convaincre, c'est-à-dire je vais te bouger de là où tu es. Et je crois pas que ça soit ça l'invitation à lancer, mais plutôt, bah, tiens, prends mes lunettes ou déplace-toi, tiens, tu peux voir les choses comme ça. Et c'est là aussi, bah, sur les processus de décision, quand on fait bouger la proposition pour qu'elle convienne à tout le monde et qu'il n'y ait pas d'objection, on n'a pas cherché à faire bouger la personne, même si le résultat, on bouge quand même intérieurement. Et donc, il y a un respect des différences. Et c'est là où tout le monde ne doit pas être d'accord, et c'est aussi source de richesse si on apprend à... Tu parlais de bienveillance, Frédéric, mais c'est comment on a des ingrédients qui permettent d'avancer ensemble avec des points de vue différents. Et c'est tout là l'enjeu de prendre le temps de s'écouter et de voir qu'on ne voit pas tous le monde de la même façon et comment on arrive à composer avec ça.
C'est bien de construire sur la base. Moi, tout seul, je ne vois pas toutes les objections possibles. J'ai mon prisme. Et je m'enrichis de ce que l'autre va apporter et j'écoute ce qu'il me dit et ensemble on va améliorer, faire évoluer les choses pour qu'on arrive à quelque chose qui soit le mieux possible. Et c'est là toute la beauté, c'est pas on est tous d'accord, c'est moi le chef, on est tous d'accord, parce que, et puis si t'es pas d'accord, tu sors comme ça et à la fin on se retrouve tout seul. Non, c'est vraiment quelque chose de collectif, de participatif.
Est-ce que je peux vivre avec la décision qui est prise? Et c'est la notion de l'objection qui n'est pas une préférence ou j'aime pas la couleur verte, j'aime pas la couleur verte, mais plutôt l'objection. Il y a des règles sur comment on pose une objection par rapport à une proposition. C'est est-ce que ça met en péril le projet ou pas? Si oui, au regard de quoi? Ou est-ce que personnellement, avec mes valeurs et mon alignement, ça me met, je pourrais quitter le projet? Donc c'est vraiment ça le cadre de repère qui permet du coup de pas non plus être dans des fantaisies ou de bloquer à tout prix pour bloquer un processus. Enfin, il y a tout un tas d'outils sur ces notions qu'on va appeler gouvernance partagée, gouvernance distribuée. Enfin, il y a plein de choses qui se passent sur cette expérimentation de faire démocratie différemment et de comment on fait de la gouvernance différemment. Et voilà.
Et c'est d'apprendre la différence entre une objection et une opinion.
Une opinion.
Voilà, et aujourd'hui, je pense que l'un des enjeux démocratiques que l'on a, c'est pour ça que moi je reprends la terminologie transition sociale, écologique et démocratique, puisqu'on a une crise démocratique aujourd'hui. Et je pense que ce type de projet est de nature à faire de l'éducation de citoyens à une autre manière de voir la politique au sens vie de la cité et de ses citoyens. Tétaclac.